En esprit et en vérité, nous terminons la leçon 4 ce matin et nous entamons la leçon 5 ce matin. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là tout à l'heure, il y a moins de copies imprimées disponibles parce qu'on nous a fait la suggestion d'essayer de s'adapter aux besoins réels plutôt que de gaspiller du papier. Tout ce que je vais lire, c'est moi qui vais devoir m'adapter à ça, là, mais tout ce que je vais lire, vous allez l'avoir de projeté à l'avant. Alors, si de toute manière, vous allez vous servir de votre copie, soit sur le site Internet, sur la page Web, ou que vous recevez par courriel et que vous allez jeter le papier, bien, vous pouvez tout simplement suivre avec ce qu'il y a à l'avant. Et puis, après ça, gardez vos notes. D'accord? On va aller ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, quel grand privilège pour moi d'étudier ta parole et de plonger les regards dans les Saintes Écritures pour découvrir encore un peu plus ta gloire, Seigneur. Tu es un être vraiment magnifique et ton œuvre est parfaite au-delà de tout ce que nous pouvons appréhender, considérer, Seigneur. Et c'est notre privilège de plonger les regards dans l'Évangile, de comprendre, Seigneur, comment ton œuvre est venue révolutionner, transformer, Seigneur, ta relation avec les hommes. Je te prie de nous faire grandir comme adorateurs, Seigneur. Permets que ces choses que nous voyons ne restent pas que de la théorie, de belles idées pour nous, mais qu'elles viennent transformer notre cœur afin que nous soyons ce peuple nouveau, qui vit avec un cœur nouveau, qui porte ta loi dans son cœur, qui t'honore par sa vie. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, ce matin, on termine la leçon 4. Ceux qui auriez avec vous une copie de la leçon 4, je suis au bas de la page 5. Et comme toute la technologie n'est jamais parfaite, vous ne l'aurez pas en avant, puisque j'ai juste la leçon 5 sur PowerPoint ce matin. D'accord? Je vais vous faire de la lecture. On n'a pas pensé à ce détail-là, Danny et moi, lorsqu'on s'est préparé. Mais quand même, Danny a fait ça gracieusement après que je vous ai envoyé les notes hier soir à 10 heures. Donc, la semaine dernière, ce qu'on voyait ensemble, c'est le fait que avec Jésus, arrive une nouvelle alliance. Juste un commentaire que je voulais faire, parce que j'étais en train de réviser mes notes, j'étais en train de me préparer, tout ça, puis je me disais, des fois, les gens doivent avoir l'impression qu'on répète des choses qui sont acquises, puis que je me donne bien du trouble à aller vous montrer dans les Écritures des choses qui sont déjà très claires pour vous. Par exemple, cette idée que nous sommes dans une nouvelle alliance avec Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est acquis. Ça fait partie de notre langage. Pourquoi est-ce qu'on prend le temps d'aller dans les Évangiles puis d'aller voir ce que Jésus nous dit par rapport à ça? Mais c'est parce qu'on est en train de... Premièrement, on ne veut pas prendre pour acquis que c'est nous qui imposons ça au texte. D'accord? Mais on est en train de se poser la question, c'est quoi adorer aujourd'hui en 2010? Un chrétien, c'est quoi être un adorateur pour un chrétien? Alors, si dans la vision de Jésus, il s'en vient instaurer une nouvelle alliance, et si l'alliance dans l'Ancien Testament était au cœur de l'adoration, vous rappelez en quoi l'alliance est au cœur de l'adoration? Je vais juste voir si vous êtes un petit peu avec moi. Hey, c'est vraiment bizarre, j'ai un gros trou ici, vous êtes tous là-bas. Je vais venir vous chercher, pas de problème. Alors, en quoi l'alliance est-elle au cœur de l'adoration? Oui, c'est quoi le rapport entre l'alliance dans l'Ancien Testament et l'adoration? Quelqu'un qui se rappelle de ça? On recommence la leçon 2. Quatre grands thèmes par rapport à l'adoration. La révélation, la rédemption qui est le rachat, l'alliance. Où se situe l'alliance dans tout ça? Eh bien, on ne peut adorer Dieu que parce qu'il se fait connaître à nous. Premièrement, la révélation. On va faire partie de son peuple uniquement parce qu'il nous a rachetés. C'est la rédemption. Nous allons entrer en relation avec ce Dieu-là selon des termes et conditions d'une alliance. Dans cette alliance que Dieu a donnée à son peuple à travers Moïse, Il nous a dit, voici ce que je m'engage à faire pour vous, voici ce que vous vous engagez à faire envers moi. Il y a moins de feuilles, si vous cherchez les copies papier, pensez ça, tu cherchais André les notes. J'en ai moins de copies parce que on essaie de sauver un peu de papier puis vous les recevez par courriel. Alors, en principe, ce que je vais enseigner, vous allez l'avoir en avant sur le PowerPoint, puis je vais m'adapter sur la quantité de copies imprimées. Est-ce qu'il reste des notes? Il y a quelqu'un d'autre qui en aurait peut-être eu besoin. Alors, ce que j'ai mentionné, c'est que si de... Juste pendant le cours, OK. De toute façon, je vais m'adapter. À la fin du cours, je vous demanderai combien de personnes de plus auraient eu besoin de notes, puis on en aura plus la semaine prochaine. D'accord? Mais on en imprimait 40, puis disons qu'il y en a plusieurs qui finissaient aux poubelles. L'alliance. Donc, l'alliance est importante dans l'adoration parce que c'est à travers l'alliance que Dieu nous dit, voici comment je veux que vous m'approchiez, voici comment vous allez me plaire, et voici comment moi je vais prendre soin de vous. Voici mon engagement envers vous, voici votre engagement envers moi. Lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, pourquoi est-ce que je prendrais autant de temps à aller voir, par exemple, est-ce que Jésus parle d'une nouvelle alliance? Bien, si Jésus parle d'une nouvelle alliance, s'il y a une nouvelle alliance, les termes et conditions de notre relation avec Dieu, donc être adorateur, vont être stipulés dans cette nouvelle alliance-là. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus avait en tête pour cette nouvelle alliance. Et au fur et à mesure que je vais saisir ça, je vais pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que Dieu attend de moi comme adorateur? Je vais pouvoir devenir un adorateur qui honore cette alliance-là. D'accord? Alors, l'alliance est au cœur de l'adoration. Oui. C'est un commentaire ou une question? OK.
Moi, ça m'a aidé à me rappeler que à ramener les choses à ma place.
OK. Alors, on a juste un partage, en fait, là, d'une sœur de Linda qui nous dit que dans une discussion avec quelqu'un, la personne avait tendance à dire, « Bien, voici, aujourd'hui, on est sous la Nouvelle Alliance, alors tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est peut-être plus directif pour nos vies à nous. » C'est un des buts du cours, on l'a dit, c'est de voir les éléments de continuité puis les éléments de discontinuité. Il y a des choses qui sont accomplies en Jésus-Christ. On a mis un accent important sur le temple. Si le temple, toutes les fonctions du temple sont accomplies en Jésus-Christ, on a de la discontinuité. S'il y a quelque chose qui arrête avec la venue de Jésus, parce que ça n'a plus lieu d'être, c'est accompli. Est-ce que ça veut dire que parce que Jésus est venu, parce que Jésus a amené la grâce, on n'est plus appelé à marcher dans la sainteté? Non, là, il y a pas mal de continuité ici. Là. On est appelé à marcher dans la même sainteté, c'est pas une question. Tout simplement, la grâce nous est plus compréhensible. C'est évident, c'est accompli en Jésus-Christ. Mais ça continue. Alors, des fois, la tentation pour les chrétiens, c'est de dire, bien, des directives de l'Ancien Testament qui ont rapport avec la sainteté, bon, on est sous la grâce, on est sous Jésus. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là qu'est le commentaire de Linda, mais c'est possible. Oui. La grâce existait aussi dans l'Ancien Testament, définitivement. Oui. Oui, les gens étaient... Exactement. Alors, dans l'Ancien Testament, on était sauvés par la foi, on était sauvés par grâce. D'accord? On n'était pas sauvés par la loi. Au contraire, tout le principe, les pratiques des sacrifices au temple étaient la démonstration qu'on ne pouvait pas plus respecter la loi dans l'Ancien Testament. D'accord? Alors, on était sauvés par la grâce dans l'Ancien Testament aussi, seulement les choses n'étaient pas aussi évidentes. Et l'œuvre de Christ n'avait pas été accomplie. D'accord? Donc, on annonçait un véritable sacrifice qui viendrait. Mais on était sauvés par la grâce aussi dans l'Ancien Testament. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on prend le temps. C'est juste que je réalisais en révisant mes notes que on plonge dans les textes, puis on pose des questions aux textes qui sont peut-être évidentes pour vous, puis à ce moment-là, vous pourriez être tenté comme de décrocher puis de dire, « Mais oui, on est dans la Nouvelle Alliance. » On le sait, Yannick. Oui, mais la Nouvelle Alliance, s'il y a une Nouvelle Alliance, ça nous apprend comment être des adorateurs. Donc, c'est important. Si Jésus enseigne vraiment ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a en tête avec cette nouvelle alliance. Est-ce qu'il était vraiment convaincu qu'il y avait une nouvelle alliance? Et l'application que j'ai faite la semaine dernière, lorsque j'ai parlé de ça, j'ai fait le lien, par exemple, avec le sermon sur la montagne. Si Jésus vient inaugurer une nouvelle alliance, que Jésus est le nouveau Moïse, hein, Moïse avait annoncé qu'il y avait un autre prophète comme lui qui viendrait, si c'est Jésus, quand il est monté sur la montagne pour donner le sermon sur la montagne, bien, en quelque sorte, il est en train de donner la nouvelle loi. Et ça veut dire que je ne vais pas regarder à tous ces enseignements-là de Jésus comme du wishful thinking de la part de Jésus, des belles utopies, des beaux rêves. Voici comment vous devriez être. Non, non, c'est la loi du royaume. Dans le royaume de Dieu, c'est comme ça qu'on marche. On vit le sermon sur la montagne. On le vit imparfaitement, on est pécheur. C'est pour ça qu'il y a la grâce. Mais on ne met pas ça de côté, on ne décroche pas de ces objectifs-là. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a eu une discussion peut-être de 5 minutes là-dessus. On ne décroche pas de ces objectifs-là comme si c'était des utopies, des rêves de la part de Jésus. On les reçoit comme les termes de la nouvelle alliance. Alors, l'exemple le plus frappant, évidemment, c'est bénissez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Ce n'est pas évident à vivre. Est-ce que c'est un rêve de la part de Jésus ou est-ce que il s'agit de la loi dans la nouvelle alliance, les termes et conditions pour entrer dans l'alliance, pour vivre dans l'alliance. Si c'est ça, ben je commence pas mal à avoir de réponses à savoir c'est quoi un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui honore la nouvelle alliance telle qu'elle est stipulée par Jésus lorsqu'il nous montre comment vivre dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Oui? OK. Fin de la leçon 4, la page 5, pour ceux qui auraient leurs notes avec eux. Les évangiles et la mort de Jésus. Jésus n'est jamais aussi clair par rapport à la nouvelle alliance qu'à la fin de sa vie. C'est vraiment là qu'il est le plus clair. Là, vous... Ah, il y a quelqu'un qui est allé me chercher ça. C'est très gentil. Merci, John. C'est vraiment à la fin des évangiles, lorsqu'on arrive avec le dernier repas, que Jésus devient le plus clair par rapport à l'idée d'une nouvelle alliance. Les 4 évangiles enseignent sur le sens de la vie et de la mort de Jésus, mais c'est vraiment à la fin complètement, lorsqu'il va prendre le dernier repas, que ça va devenir vraiment clair. La semaine dernière, on a commencé à parler du fait que Jésus voyait ce qu'il attendait, la croix, comme la coupe. Et l'image qu'on a vraiment, c'est l'image de l'Ancien Testament, la coupe de la colère de Dieu. Lorsque Jésus fait cette prière au Père, puis il dit « Éloigne de moi cette coupe », à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, la coupe est présentée comme boire la coupe de la colère de Dieu, c'est recevoir le châtiment de Dieu. Et donc, Jésus voyait sa mort comme une rançon qu'il allait payer. Il allait recevoir, il allait boire la coupe de la colère de Dieu. C'est pour ça qu'en théologie, on va dire que Jésus a été maudit par Dieu à ce moment-là. Il a été fait péché à ce moment-là. Et ça explique le cri de son cœur lorsqu'il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Le « pourquoi », ce n'est pas un « pourquoi » rationnel, là. C'est un « pourquoi » dans ce qu'il expérimente, dans ce qu'on ne pourra jamais comprendre. Vous avez la Sainte Trinité, puis il y a quelque chose qui s'est passé là. De toute éternité, le Père et le Fils sont en communion. La communion est brisée à ce moment-là. Et on ne pourra jamais saisir vraiment ce qui s'est passé. Ça nous dépasse. Mais donc, Jésus avait conscience, il savait qu'il s'en venait instaurer, donc, une nouvelle alliance, de la même manière que, comment est-ce que la première alliance a été instaurée avec le repas de la Pâque? D'accord? Alors là, Jésus se prépare à aller prendre le repas de la Pâque, parce que les Juifs ont fêté la Pâque, mais lui, dans son esprit, ça a un autre sens, là. C'est la première Pâque que les Juifs ont célébrée lorsqu'ils ont été sortis de l'esclavage en Égypte. Ça servait à quoi? C'est un sacrifice. L'agneau qui était sacrifié servait à témoigner qu'ils étaient du peuple de Dieu, à garder une protection sur leur maison, à protéger le premier-né, tout ça, d'accord? C'est un sacrifice qui avait été fait. Ça va? Jésus se prépare à célébrer cette Pâque-là et puis il dit, enfin, toute cette histoire-là, tous ces gestes-là que vous faites depuis des siècles, c'est ça qu'ils annonçaient. C'est ça qu'ils annonçaient. Cette Pâque-là qu'on célèbre ensemble. Et donc, les disciples prennent le repas de la Pâque et Jésus va venir donner un nouveau sens à ce repas-là. en fait, un nouveau. Il s'en vient expliquer le sens qui était réservé depuis toujours. Au milieu de la page 6, un petit peu plus bas, s'il te plaît, Jonathan, les paroles dites eucharistiques de Jésus occupent une place centrale dans la révélation qu'il donne de lui-même et fournissent la clé d'interprétation de sa personne et de son œuvre. La Pâque était la célébration de la libération du peuple d'Israël et l'entrée dans une alliance entre Dieu et le peuple racheté. Jésus désirait ardemment célébrer cette dernière Pâque avec ses disciples. Matthieu 22, 15 et 16, il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ça, c'est le sens que Jésus donnait à sa mort, il s'en venait accomplir la Pâque attendue depuis des siècles, annoncée depuis des siècles à travers les sacrifices d'animaux. Matthieu 26, 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et donc, le repas du Seigneur va devenir un élément central de notre adoration. Pas parce qu'on referait ce sacrifice-là. Ça a été tout le débat de la Réforme entre Luther puis l'Église catholique. Puis après ça même, on est allé un petit peu plus loin. On s'est même distancé un peu de Luther. Mais si tous les sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient un sacrifice ultime, un sacrifice parfait, on ne va pas le refaire à tous les dimanches, c'est pas vrai. C'est accompli, c'est fait. Il est venu accomplir ce qui avait été annoncé depuis des siècles. Parfaitement. Donc, lorsqu'on prend le repas du Seigneur ensemble, on est en train de se rappeler le sacrifice de Christ qui nous donne accès à une nouvelle alliance avec Dieu. Le lien avec l'adoration est direct, d'accord? Lorsqu'on prend le temps de se rappeler de ça, pourquoi est-ce que Paul nous dit que c'est un bon temps pour s'examiner, de se préparer à prendre un tel repas? C'est parce que c'est l'alliance qu'on est en train de célébrer. On est en train de se rappeler ce dans quoi on est entré. C'est pour ça que, dans un sens, quelqu'un qui viendrait prendre le repas du Seigneur puis qui n'a pas pris la décision de se faire baptiser, des fois, vous allez nous entendre, on encourage les gens à faire attention, à prendre le temps de prendre une décision pour Christ, à se faire baptiser, donc pour témoigner publiquement de leur foi avant de prendre le repas du Seigneur. Mais la raison est simple, c'est que tu es en train de célébrer une alliance dans laquelle tu n'es même pas entré encore. C'est ton baptême qui est ton témoignage public que tu entres dans cette alliance-là avec Christ. Donc, tu prends la décision de te faire baptiser, tu entres dans cette alliance avec Christ, puis après ça, tu la célèbres à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur. Oui, Annie? C'est une bonne question pratique, là. Est-ce que Annie pose la question, est-ce qu'il y aurait des raisons qui feraient que je devrais m'abstenir de prendre le repas du Seigneur? Bien, je vous dirais oui et non. Certainement jamais parce que je suis trop pécheur. Ce serait pas comprendre ce qu'on est en train de célébrer. C'est qu'il n'y a pas de trop pécheur. C'est ça qu'on est en train de célébrer, il n'y en a plus de trop pécheur. Maintenant, en même temps, oui, je pense que oui, parce que le Seigneur dit si j'ai quelque chose avec un frère, je dois tout mettre en œuvre pour le régler. Je ne pourrais pas toujours les régler, d'accord? J'avais une discussion avec quelqu'un cette semaine, puis je disais, c'était avec Danny, puis je disais, dans mon cas, je ne pourrais jamais prendre le repas du Seigneur. Ça fait 13 ans que je suis dans le ministère. En 13 ans, il y a toujours eu quelqu'un qui avait quelque chose contre moi. Je vous le dis. C'est simple, hein? Je ne pourrais jamais prendre le repas du Seigneur. Même si je fais tout pour essayer, je ne peux pas toujours toutes les régler. Donc, oui et non. Si je sais, le Seigneur me convainc, l'Esprit Saint me convainc à ce moment-là, on se prépare à prendre le repas du Seigneur. Yannick, tu dois faire ça, tu as été négligent à faire ça. Je pense que ce serait une raison valable. Historiquement, à travers l'histoire de l'Église, l'Église a interprété ça comme un premier geste de discipline. Alors, lorsque vous pensez à la discipline ecclésiastique, vous pensez généralement à l'exclusion de l'Église. Historiquement, dans l'histoire de l'Église, le premier geste public que les anciens vont poser, c'est qu'ils vont inviter un individu. Il y a des églises qui ne font que ça. Il y a des églises, beaucoup d'églises, qui ne vont pas dire à quelqu'un « tu ne viens plus ici ». Parce que dans leur esprit, s'ils lui disent « tu ne viens plus ici », c'est parce qu'ils se comportent comme un inconverti. Ben, viens entendre l'Évangile puis convertis-toi. Donc, ils vont le laisser venir, à moins que ce soit quelqu'un qui cause du tort à l'Assemblée, quelqu'un, un loup, qui essaie d'entraîner des gens dans des fausses doctrines. Mais si son péché produit des conséquences essentiellement dans sa vie, premièrement, il va être mis en discipline publiquement et on va lui interdire de participer au repas du Seigneur. D'accord? Tant qu'il ne se repent pas. Alors, certaines églises vont s'en servir comme ça. Oui? On entre dans l'Alliance par la foi. Oui. OK, Linda posait la question. On entre dans l'Alliance par le baptême. OK, c'est une bonne question. Je vais essayer d'y répondre. Oui, mais... On est sauvé par la foi, d'accord? On est sauvé par la foi. Ce n'est pas le baptême qui nous sauve. C'est inconcevable, à la lumière du Nouveau Testament, qu'un individu décide de marcher avec Christ, qu'il fasse ce pas de foi et qu'il ne soit pas prêt à faire le pas public. D'accord? C'est dans ce sens-là que j'y vais. Alors, si vous étiez dans une église, par exemple, qui vous disait « tu fais profession de foi, c'est bon, on va te baptiser dans 3 ans. » Puis là, les anciens diraient « tu ne peux pas prendre le repas du Seigneur entre-temps. Ben, » premièrement, j'aurais un problème biblique fondamental avec « on va te baptiser dans 3 ans. » On veut te regarder aller, il faut vraiment que tu performes parce qu'autrement, oh, OK, là, on est tout en train de renverser toute l'idée de la grâce. Là. D'accord? Alors, ça serait un petit peu farfelu. Mais un individu qui va faire profession de foi, puis qu'il ne se sent pas prêt à se faire baptiser, fait qu'il va attendre 1 an ou 2, bien, la question, c'est est-ce qu'il se sent prêt à suivre Jésus? Est-ce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu? Je le mets brutalement, mais dans une discussion, c'est ça qu'on va faire avec lui, parce que Jésus l'a dit assez clairement. Si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Ça finit là. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ose pas me faire baptiser? Je me sens pas capable de faire ça. Ça va être quoi lorsqu'il va falloir que tu sois flagellé pour le nom de Christ, là? Qu'est-ce qui va se passer quand à l'école, on va vouloir enseigner des affaires fausses à tes enfants, puis il va falloir que tu aies rencontré la directrice, ou on va se moquer de toi au travail? Je veux dire, on ne fait même pas ça sur le bord d'une rivière. Là, on est ici, 30 inconvertis. D'accord? Alors, c'est là. Quelqu'un qui ferait pas ce pas-là, personnellement, je ne lui dis pas le baptême sauve, mais je lui dis le baptême est le premier témoignage extérieur que tu es entré dans l'Alliance. D'accord? Oui. 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 C'est un premier pas de témoignage public. Oui. Vous me reviendrez avec une autre question. OK. C'est bon. Alors, on va s'arrêter là avec le repas du Seigneur. Mais on voit vraiment cette idée que Jésus est venu instaurer une nouvelle alliance. Et donc, ça nous aide à grandir comme adorateurs. D'accord? On réfléchit, on lit les Écritures pour dire, OK, c'est quoi cette nouvelle alliance-là? Si dans l'Ancien Testament, être un adorateur, c'est honorer l'alliance, c'est quoi l'alliance? Bien, par exemple, ce matin, je vais citer à la fin de ma prédication 2 Corinthiens 5, 14 et 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est les termes de l'Alliance. « Il m'a racheté au prix de son sang, je ne m'appartiens plus, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour celui qui est mort pour moi. » Condition de l'Alliance. D'accord? Alors, c'est pas, vous ne trouverez pas les 10 commandements, là. Mais vous lisez le Nouveau Testament, puis vous dites, c'est quoi la nouvelle alliance? Qu'est-ce que Jésus attend de nous? Je suis entré dans cette alliance-là, je vais être un adorateur, je vais honorer l'alliance. C'est bon? D'accord, on va passer à la leçon 5. Mes amis, on couvre 2 leçons ce matin. C'est pas vrai, on va juste la commencer. Le temple et la communauté dans les Actes des apôtres. Écoutez, une des belles places pour apprendre c'est quoi l'adoration dans le Nouveau Testament, c'est d'aller voir les premiers chrétiens pour voir comment ils adoraient. Hein? On a un livre d'histoire, entre guillemets, qui nous raconte l'histoire des premières églises. On va voir ce qui change avec eux. On va les regarder aller, puis on va essayer d'apprendre c'est quoi l'adoration selon les premiers chrétiens, comment est-ce qu'ils le vivaient. Alors, je vous lis juste le premier paragraphe. J'ai trouvé que ça résumait quand même assez bien l'idée. « Si au sens ancien du terme, il n'y a plus de culte, il est aussi vrai, inversement, que la vie tout entière est devenue un culte, dans un sens nouveau. La vie n'a d'autre but que d'être offerte à Dieu dans l'adoration et l'action de grâce. » Ce n'est pas si différent que ça de l'Ancien Testament. On a vu, dans l'Ancien Testament, l'Alliance donnait un style de vie, amenait un style de vie, puis on a vu que les gens allaient témoigner de leur adoration par une vie différente. Ils allaient entrer dans leur vocation, dans l'appel que Dieu a donné pour le peuple d'Israël. Et donc, ça allait être tout leur style de vie. C'est vrai pour nous aussi. Sauf que dans notre cas, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifices. Les sacrifices sont accomplis. Un culte à proprement dit, il n'y en a pas. On appelle ça un culte, ce qu'on fait ensemble, parce qu'on offre des louanges à Dieu. Mais littéralement, c'est notre vie qui est censée être un culte à Dieu. D'accord? Deuxième paragraphe. En fait, là, c'est moi qui dois avancer, hein? Le deuxième paragraphe, au bas de... J'ai-tu en plus de ça un... Là-dessus? Y'a-tu un laser là-dessus en plus? Non, c'est pas de laser. OK, c'est bon. Deuxième paragraphe, il faut... Oui! Ah! Merci. Ah, je vais être vraiment cool. Merci. C'est marqué laser, ça s'écrit comment? Juste ici. Il faut déjà souligner que les mots-clés de l'adoration de l'Ancien Testament ne sont que peu présents dans le livre des Actes. Ainsi, tout comme pour les Évangiles, nous devons chercher à examiner quelle expression prendra l'adoration. D'accord? Des mots comme prosternement, proscunéine, c'est des choses qu'on... Ça disparaît pratiquement avec le départ de Jésus. Les dernières fois où on assiste à ça, c'est après sa résurrection, les apôtres qui vont venir l'adorer. Mais ensuite de ça, dans les églises... des pratiques de se prosterner ou le terme lui-même à peu près absent dans le Nouveau Testament. Et c'était intéressant pour nous de prendre la Septante dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez, la Septante, c'est la traduction grecque pour voir ce terme-là, ce langage-là, proscunéine, le prosternement qui est très, très présent dans l'Ancien Testament. Bien, le même mot grec est disponible. On est dans la même langue. On arrive dans le Nouveau Testament grec. Non, il n'est pas là. Ça ne fait pas partie vraiment de l'adoration. Et donc, ça va changer. C'est clair que ça va changer. Il y a beaucoup du langage lié au culte d'adoration dans l'Ancien Testament qu'on ne trouve pas dans le Nouveau Testament. Oui, Paul? Oui, dans l'Apocalypse. C'est ça, lorsqu'on va être devant lui. Exactement. Mais on va se rendre jusqu'à l'Apocalypse, Dieu voulant, dans quelques semaines. Une bonne observation, Paul. Alors, une des choses qu'on va observer, là, je suis rendu avec deux bébelles. On va commencer par le temple, parce qu'au début, les disciples sont encore au temple. On aurait pu penser qu'ils allaient quitter le temple. Hein? S'ils ont bien compris ce que Jésus a enseigné, c'est accompli. Ça sert à quoi maintenant le temple? On aurait pu penser qu'ils allaient quitter immédiatement le temple. En fait, ils ne quitteront pas le temple avant d'être chassés du temple. D'accord? Donc, on va aller voir ce qui se passe au temple. On va aller voir l'évolution de certains thèmes majeurs sur l'adoration à travers tout le Nouveau Testament. Et une des choses dont on va se servir pour pouvoir découvrir comment ils adoraient, on va se servir des prédications. On va aller regarder de quoi ils parlent, qu'est-ce qui change dans ce qu'ils enseignent, dans les thèmes qu'ils enseignent. Et les prédications sont importantes dans le livre des Actes, d'accord? Une des premières choses qui ressort à travers la prédication dans le livre des Actes, c'est toute la prédication de Jésus-Christ, le rôle central que Jésus-Christ va occuper. Excusez-moi, je suis déstabilisé avec cette bébelle-là. C'est ça. Dans les prédications, veux-tu, on va faire quelque chose, John? Tu vas tourner ça, puis moi, je vais enseigner. OK? Merci. OK. Dès la première prédication avec Pierre, après ça avec Étienne, à travers toutes les prédications, on va voir qu'ils vont amener Jésus-Christ au centre du message de Dieu. Évidemment, si Jésus vient accomplir ce qui avait été annoncé depuis des siècles, ce qu'ils veulent faire, c'est donner une nouvelle révélation. Ils veulent apporter une révélation au peuple pour qu'ils réalisent que c'est accompli. Et donc, rapidement, en fait, ce qu'on va voir, c'est que Jésus-Christ va venir au centre de l'adoration. La personne de Christ, c'est une nouvelle révélation de Dieu et sa personne va venir au centre de l'adoration. On va voir comment ça se développe dans certains discours ce matin, d'accord? Au bas de la page 2, en fin de compte, nous pouvons dire que le message des apôtres n'est pas très différent de celui de l'Ancien Testament. Écoutez bien ceci pour voir la continuité avec l'Ancien Testament. La communion avec Dieu est possible uniquement sur la base du rachat. C'était le cas dans l'Ancien Testament, on a parlé de la rédemption. Donc, la communion avec Dieu est possible uniquement sur la base du rachat ou du pardon effectué par Dieu lui-même, une initiative de Dieu. On avait dit ça pour l'Ancien Testament. Cette fois-ci, en la personne de son Fils. Il faut venir à la connaissance de son Fils pour connaître Dieu lui-même. Et une fois baptisé en son nom, les croyants entrent à son service. Si vous êtes avec nous depuis le début du cours, ce langage-là ressemble beaucoup à l'Ancien Testament. Vous avez juste à ajouter une personne, Jésus-Christ. Mais c'est Dieu qui initie, c'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui nous rachète parce qu'on serait incapable nous-mêmes. Et puis, nous sommes appelés à vivre différemment, à entrer à son service. Même message. Une personne, Jésus-Christ, qui est au cœur de ce message-là, d'accord? Alors, on va regarder les premiers rassemblements des chrétiens, les premiers disciples au temple. Comme je le mentionnais tantôt, on aurait pu penser qu'ils s'éloigneraient du temple. En fait, les disciples, avec le départ de Jésus, font ce que Jésus faisait, ils enseignaient au temple. Ils s'en vont au temple. Puis, d'un autre côté, c'est la place où aller pour expliquer ce que Jésus est venu faire. Je veux dire, tu as une leçon de choses. Tu es au temple. Tu veux expliquer le sacrifice de Jésus-Christ. Vous savez, c'est quoi une leçon d'objet? Une leçon d'objet, tu as le temple qui est là. Jésus accomplit tout ça. On va passer à autre chose. Alors, eux autres s'en vont là, puis ils enseignent là. C'est plein de bon sens. Mais on voit qu'ils vont profiter aussi de l'espace qu'il y a là, l'opportunité d'enseigner. Et puis, évidemment, ce qu'ils veulent faire, c'est que leurs compatriotes continuent à aller au temple pour adorer, à aller au temple pour offrir des sacrifices. Et eux autres disent, non, c'est complet ça. Mais tu vas au temple. Tu vas au temple, puis tu leur dis, non, c'est complet, vous n'avez plus besoin de faire ça. Maintenant, si tu rejettes Christ, tu ne reconnais pas en lui le Sauveur, et que tu as une gang de flyés qui s'en vont au temple pour dire, non, vous n'avez plus besoin de faire ça, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ils vont être chassés de là, ce ne sera pas long. Alors, le temple dans le livre des Actes est au début un lieu de prière puis d'enseignement, puis après ça va devenir un lieu de conflit puis d'arrestation, jusqu'à temps qu'ils soient chassés. D'accord? C'est ça qui va se passer avec le temple. Mais au début, ils sont là au temple. Et puis, en fait, si vous vous rappelez, Paul va y retourner plus tard. Maintenant, ça devait être assez magnifique pour Paul d'aller au temple, puis en disant, « Seigneur, tu as tout fait ça. Je peux le faire. » Tu sais, comme moi, je suis juif. Ce n'est pas nécessaire pour être sauvé. C'est clair, les païens n'ont pas besoin de faire ça. Mais moi, je peux le faire en souvenir de tout ce que tu as accompli, qui est tellement plus grand que ça. Donc, dans un sens, c'est intéressant. Comme c'est intéressant pour nous de comprendre le temple, et de comprendre tout ce qui se faisait là, puis de voir à quel point ce que Christ a accompli est tellement extraordinaire avec toute la séparation qu'il y avait entre Dieu et les hommes, puis les hommes qui ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. Ça devait être fantastique d'y aller puis dire, OK, les gens ne veulent peut-être pas que j'entre dans le lieu très saint là-bas, mais moi, je suis dans le lieu très saint à chaque instant parce que j'ai Christ qui habite en moi par son esprit. Donc, ils vont aller au temple. Ils vont continuer à enseigner au temple. Oui, je vais juste le répéter. C'est tout à fait juste. Alors, Paul, c'est ça que je mentionne. Paul est juif. Alors, Paul, lorsqu'il va aller au temple, il respecte toutes les règles qu'il y avait avant. D'accord? Maintenant, en lisant Paul, ce serait farfelu de penser qu'il ressent le besoin de faire ça pour être réconcilié avec Dieu. Il est déjà parfaitement réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. Il fait ça parce qu'il s'en va adorer Dieu, c'est tout. Il respecte ces règles-là parce qu'il est juif, puis... Il respecte les gens, il se fait tout à tous, c'est tout. Mais c'est clair dans l'esprit de Paul, c'est clair dans ses lettres que les inconvertis, les païens, n'ont pas besoin de faire ça et que lui n'avait pas besoin de faire ça pour être en communion avec Dieu. Lorsqu'il est avec les païens, il est tout autant en communion avec Dieu sans faire ça. D'accord? Premier discours d'Étienne. Tournez avec moi dans les Actes, s'il vous plaît. Moi, je vais juste aller vers quelques extraits du discours d'Étienne. Excusez-moi, pas le premier discours d'Étienne, mais le discours d'Étienne. Acte 6. Ce qu'on va commencer à voir, c'est que dans la pensée de l'Église des premiers chrétiens, Jésus-Christ devient central dans l'adoration. Okay, encore une fois, c'est une évidence. Dans nos chants ce matin, on va parler de Jésus. Dans la prédication, on va parler de Jésus. C'est une évidence pour nous. Mais en même temps, comme chrétiens, après un certain nombre d'années, on a parfois l'idée où on pourrait avoir le goût de passer à autre chose. Jésus, c'est la porte d'entrée, puis on passe à autre chose. Ça n'a pas l'air d'être comme ça dans les Écritures. Et ce n'était pas comme ça pour les premiers disciples. Tu ne passes pas à autre chose. Dans l'Ancien Testament, lorsque les gens allaient au temple, c'était pas, il n'y avait pas des fades, des modes au temple. Puis tu sais, il y avait des nouvelles thématiques. Cette année, on va faire des sacrifices avec des moutons blancs. La semaine prochaine, l'année prochaine, peut-être des roses. Vous voyez, il n'y avait pas d'élément de nouveauté. Tu t'en vas adorer Dieu, tu grandis dans ta communion avec Dieu, mais c'est le même Dieu que tu t'en vas adorer. Ce qu'on va assister dans l'Église avec les premiers chrétiens, c'est qu'il y a un nouveau personnage, une nouvelle personne qui va devenir centrale dans l'adoration. Ça, c'est profondément innovateur par rapport à l'Ancien Testament. Jésus vient vraiment au centre de l'adoration, d'accord? Mais on ne passe pas à autre chose après. Christ reste au centre. Alors, pourquoi est-ce que ce serait pertinent pour nous, dans notre étude sur l'adoration, de voir ça? Christ est au centre de notre adoration. Et lorsque je viens à l'Église et que je suis blasé d'entendre l'Évangile, probablement que mon cœur s'est éloigné de Dieu. Tout simplement. Ce n'est pas parce que je connais tout ça. Je connais tout ça. Comment peux-tu prétendre connaître parfaitement l'Évangile? Ce qu'il y a de plus beau dans toute l'histoire de l'humanité, dans tout l'univers, le plus grand geste d'amour, ce serait comme dire à ton épouse, « Ben, écoute, je te connais, j'ai le goût de changement. » J'ai fait le tour de toi, là. Comprenez? Mais là, je veux dire, ton épouse, excuse-moi chérie, mais elle n'est pas comparable avec l'Évangile. C'est infini, là, ce qu'il y a à découvrir en Christ, à saisir, à adorer. Alors, le discours d'Étienne est important, premièrement parce que Dieu souverainement va s'en servir pour provoquer l'Église à bouger, mais à cause de son contenu aussi. Étienne, un enseignement radical. Après avoir rejeté et crucifié le Maître, nous pouvons apprendre du martyre d'Étienne sur l'objet de l'adoration des premiers chrétiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Étienne était un homme sage, il enseignait, il prêchait Christ, il démontrait que Jésus était le Messie et les Juifs n'arrivaient pas à le contredire. Il y avait une sagesse divine qui lui avait été donnée. Les Juifs n'arrivaient pas à le contredire. Versets 13 et 14, Actes 6, 13 et 14, ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Maintenant, c'est des faux témoins, donc il y a quelque chose de faux là-dedans. Est-ce que ça veut dire que c'est entièrement faux? Ou est-ce que ça se pourrait que les faux témoins soient là pour déformer les propos d'Étienne? Parce qu'ils l'ont fait avec Jésus. Jésus a annoncé que le temple serait détruit. Jésus a dit « Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai », parlant de lui-même, de son propre corps. Donc, il y avait quelque chose par rapport au temple, mais Jésus n'a pas dit « Je m'en viens détruire le temple ». Et de la même manière, Étienne n'était certainement pas en train de dire « Jésus s'en vient détruire le temple ». C'est des faux témoignages, c'est ça qui nous est dit ici. Est-ce que ce serait une coïncidence que les accusateurs d'Étienne produisent des faux témoins qui l'accusaient d'annoncer la destruction du temple? Ou ne devrions-nous pas déduire qu'Étienne annonçait que la loi et les prophètes trouvaient leur accomplissement en Jésus-Christ? Nous voyons en effet à la toute fin du discours d'Étienne apparaître le thème de la non-permanence du temple. Et là, je vais vous demander d'avancer un petit peu. Dans Acte 7, verset 45. Acte 7, 45. On est toujours dans le discours d'Étienne. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays. On parle ici du tabernacle, la maison de Dieu avant que le temple soit construit, d'accord? Dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Étienne ne conteste pas le fait que cette maison-là était de Dieu. C'était un dessein, un plan qui était de Dieu. Mais voici ce qu'il dit au verset 48. « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? » Voyez-vous, le thème de la non-permanence du temple, du fait que le temple n'est pas la vraie maison de Dieu, est en train de réapparaître ici. Et c'était certainement dans les enseignements d'Étienne de dire ce que Jésus est venu accomplir par son sacrifice. Ça soulevait la question du fait que le temple n'est plus nécessaire, les sacrifices ne sont plus nécessaires. Oui, Sylvain. Oh oui, tout à fait. Tout à fait, Salomon. À la dédicace du temple, avait dit exactement la même chose. Exactement. Maintenant, Salomon ne l'a pas dit avec l'idée qu'un jour, on enlèverait ça. Tout ce qu'il a dit, c'est « c'est pas nous qui t'honorons aujourd'hui vraiment, c'est toi qui nous honores de ta présence, parce que de venir mettre ton nom sur une maison, on comprend que c'est un peu farfelu pour un être omniprésent comme toi. » Dans un sens, c'est ça que Salomon a déclaré. Hein. S'est mis à l'adorer en disant, on comprend que tu nous fais une grosse faveur là, parce qu'on ne pourrait pas te construire une maison suffisamment grande pour toi. Sans nécessairement entrevoir qu'un jour, il ne serait plus nécessaire parce que Christ aurait accompli tout ce qu'on trouve là. D'accord? Mais on voit ce thème-là qui est là, où on questionne, on commence à questionner le temple. Et donc, c'est... Les faux témoins portaient de fausses accusations. Ça ne veut pas dire que Étienne ne leur donnait pas de la matière. Étienne est venu annoncer quelque chose. Pensez pas que les sacrifices d'animaux que vous faites là, c'est vraiment ça qui vous amène le pardon. Non, c'est le sacrifice que Dieu a fait par vos mains meurtrières en crucifiant Jésus qui peut vous amener le pardon. C'est tout un déplacement, ça, là. Voyez-vous, c'est comme si ce qui se passe dans le temple, ça devient un petit peu secondaire finalement. Il est en train d'attaquer nos coutumes, lui-là. Là, c'est plus important. On aurait presque l'impression d'entendre les gens d'Éphèse crier « on s'en prend à notre idole ». D'accord? Mais c'est ça, Étienne est en train de dire « il y a des choses qui sont accomplies là ». Et ça va devenir important dans la suite des événements puis dans l'histoire de l'Église. C'est au bas de la page 3, c'est cette prédication qui devient l'élément déclencheur de la première persécution majeure contre les chrétiens et qui entraîne leur expulsion du temple. Maintenant, regardez 8:4, et selon moi, c'est important parce qu'on appelle parfois les actes des apôtres, on les appelle parfois aussi les actes du Saint-Esprit. D'accord? On voit l'œuvre de l'Esprit. Luc prend le temps de souligner énormément l'œuvre de l'Esprit. Maintenant, regardez le verset 4, acte 8:4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce d'exaltation dans cette phrase-là? Est-ce que vous sentez que c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, en fin de compte, cette persécution-là? Peut-être que c'était selon le dessein de Dieu, puis Dieu est en train de diriger les choses. Et c'est un des thèmes qui va être développé à travers le livre des Actes, d'accord? C'est l'Évangile qui s'en va vers toutes les nations. Le Saint-Esprit va attester, va ouvrir les portes, va venir confirmer avec Corneille, d'accord? Il va venir confirmer l'ouverture aux nations. Et ce qu'on assiste dans le livre des Actes, c'est un déplacement de l'adoration. On quitte Jérusalem. On va être chassé, mais on quitte Jérusalem, on quitte le temple. On n'a plus besoin d'un lieu. Alors, le jour vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs n'adoreront pas ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais en esprit et en vérité. C'est à ça qu'on est en train d'assister. Les chrétiens sont chassés de Jérusalem, puis ils vont aller annoncer l'Évangile. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, ce qu'il faut retenir dans ce mouvement-là, c'est que si le temple n'est plus le centre de l'adoration lorsque les chrétiens quittent Jérusalem, c'est qui ou quoi qui est le centre de l'adoration? C'est le nouveau temple. C'est Jésus-Christ. D'accord? C'est ça qu'on est en train de voir. Quelle place doit occuper Jésus-Christ dans notre adoration, dans notre compréhension de l'adoration? Bien, le temple n'est plus localisé parce qu'une personne est venue accomplir parfaitement toutes les fonctions du temple. C'est le nouveau temple, c'est Christ. C'est lui qui accomplit tout ça. Et c'est lui qui doit être au centre. C'est autour de lui que nous nous assemblons. Prochaine page. En effet, la proclamation de Jésus-Christ à Jérusalem sonne le glas de l'avancée missionnaire de l'Église afin que Jésus-Christ, sauveur non seulement des Juifs, mais de tous les hommes, soit proclamé pour que des hommes de toute nation viennent à Dieu par Jésus. À présent, les hommes de toutes les nations de la terre viendraient à Dieu dans la communion de celui qui est le nouveau temple, Jésus-Christ, et ceci ne dépendra plus de Jérusalem. C'est le Saint-Esprit qui dirige ça, qui permet ça et qui amène cela. Est-ce que ça, c'est assez clair pour vous? Dans la prédication d'Étienne, dans la prédication de Pierre, Jésus-Christ devient central. Et lorsqu'on commence à annoncer Christ, les persécutions viennent. C'est vraiment lui l'élément déclencheur. Mais c'est ça qui va nous amener aussi à quitter Jérusalem. Et ce ne sera pas un vrai problème pour l'Église. De quitter le temple, de quitter Jérusalem, de ne pas être bienvenu au temple. Ça ne posera pas un vrai problème. Tout comme ça ne pose pas un problème ce matin pour nous, pour adorer Dieu, de ne pas être à Jérusalem. Oui, Sylvain. Oui. Oui, oui. OK. La question de Sylvain, c'est est-ce qu'on peut voir comme une image qu'avec le voile qui se déchire, en fin de compte, même si les disciples vont au temple, le Saint-Esprit quitte cet endroit-là? Je pense que ça serait spéculer un petit peu. Quitte cet endroit-là puis les amène ailleurs. Ça serait plus de l'ordre de l'image, j'ai l'impression. Parce que ça laisserait entendre que le Saint-Esprit était comme confiné peut-être au lieu très saint. Ce qui serait faux, là. Fait que le Saint-Esprit était sur des individus aussi ailleurs. Mais je pense qu'au niveau du symbole, c'est clair qu'il y a un message qui est lancé. C'est que tu n'as plus besoin d'être là pour être en communion. Parce qu'il est avec nous partout où nous sommes, si nous sommes en Jésus-Christ. La venue de l'Esprit et la prédication de Christ. Le livre des Actes, nous pourrions dire, s'ouvre sur la doctrine du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit tantôt, des fois, on l'appelle le livre des Actes du Saint-Esprit. Maintenant, dans le discours de Pierre, sa citation du prophète Joël, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière ou l'autre semaine avant, on a lu ensemble la prophétie dans Jérémie 31, où il nous annonçait une nouvelle alliance et qu'un jour viendrait où la loi serait dans le cœur des hommes. La citation que Pierre fait de Joël nous rappelle Jérémie 31, et c'est ça qui est en train de s'accomplir à ce moment-là. Ainsi, avec la venue de l'Esprit-Saint, nous voyons réapparaître le thème de la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est un thème très, très important dans l'Ancienne Alliance. La nouvelle communauté, sans la nécessité du temple, sera habitée par la présence de Dieu, allant à présent jusqu'à inclure des non-juifs dans la communion des saints. Là, je voudrais vous lire le paragraphe un petit peu plus bas qui est entre guillemets. « Si l'adoration consiste à entrer en relation avec Dieu à la manière qu'il choisit, on fait encore un lien avec l'Ancien Testament, d'accord? Si l'adoration consiste à entrer en relation avec Dieu à la manière qu'il choisit et que lui seul rend possible, la proclamation du Christ est la clé. Selon le livre des Actes, la proclamation du règne céleste du Christ avec tout ce qu'il implique constitue le moyen choisi par Dieu pour permettre aux humains d'entrer en relation avec lui, par le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, l'adoration consiste à répondre de tout son être et par sa vie entière au règne de Jésus. Et donc, ce qu'on voit dans le livre des Actes, à travers le discours de Pierre, mais aussi à travers le récit du livre des Actes, lorsqu'on proclame Jésus-Christ et qu'une personne croit en Jésus-Christ, Dieu vient habiter en lui. Mais c'est un thème important dans l'Ancien Testament. Si j'entre dans l'alliance avec Dieu, je contracte une alliance avec Dieu, Dieu va venir habiter au milieu de son peuple. C'est quoi l'élément déclencheur dans le Nouveau Testament qui fait que Dieu vient habiter au milieu de son peuple? La proclamation de l'œuvre de Jésus-Christ. Ça amène pas mal Jésus-Christ au centre de notre adoration. Si on allait au temple chaque année pour adorer Dieu et célébrer cette alliance et le fait que Dieu était au milieu du peuple d'Israël et que tout ça nous amenait, le geste le plus fort qui nous amenait à faire ça, c'est d'aller offrir des sacrifices. Mais dans le Nouveau Testament, on vit cette réalité-là et plus encore en croyant en Jésus-Christ puis en célébrant Jésus-Christ, en honorant son sacrifice à lui. Ça amène la personne de Jésus-Christ pas mal au centre de notre adoration. Donc, on n'ira pas ailleurs. Et si je peux faire une parenthèse, même si le livre des Actes, c'est le livre des Actes du Saint-Esprit, on pourrait dire, le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament est là constamment pour nous révéler Christ. D'accord? Alors, cette espèce de pensée qui s'est développée à travers le 20e siècle, qui reste encore dans certains milieux, qu'on a tendance à négliger l'Esprit, puis il faut chercher à être en communion avec l'Esprit. C'est super simple. Soit en communion avec le Fils, puis l'Esprit est super content. C'est ça son travail. Son travail, c'est de nous révéler le Fils. C'est ça son travail. D'accord? Alors, quand je cherche à être en communion avec Jésus-Christ, si je le suis, c'est l'Esprit qui est en train de le produire en moi. Je ne manque de respect à personne ici. Là. D'accord? Oui? Les actes du Saint-Esprit? Non. Oui, non, absolument. Lorsque je dis qu'on appelle ça des fois les actes du Saint-Esprit, c'est que c'est un des thèmes importants dans le livre des actes. Luc, en fait, si vous voulez le voir, là, c'est simple. Là. Relisez les actes cette semaine, puis regardez ce que Luc fait lorsqu'il nous explique le rôle du Saint-Esprit. Puis vous voyez qu'il est là à chaque moment majeur, à chaque moment déterminant. Et c'est pour ça qu'on dit, on appelle ça parfois les actes du Saint-Esprit. Mais si vous le lisez, prenez le temps juste de lire les actes. Absolument. Mais c'est clair qu'on découvre l'Esprit de Dieu comme jamais auparavant à travers le livre des actes. Après ça, les épîtres vont l'intégrer dans leur théologie, les lettres, tout ça. Mais on découvre le rôle de l'Esprit de Dieu comme jamais avant à travers le livre des actes. Maintenant, son rôle à lui, c'est clair dans le livre des actes, c'est pas de nous parler du Saint-Esprit. C'est de nous parler de Jésus-Christ. Oui?
C'est un peu normal ici, parce que quand Christ est monté au ciel, et puis je vais vous l'envoyer, le
consolateur,
l'Esprit. Et là, l'Esprit descend et agit avec puissance.
Oui.
C'est un peu normal qu'on voit l'Esprit d'une manière beaucoup plus puissante dans le peuple nouveau-né que dans l'Ancien Testament, parce que là, il est donné d'une manière très particulière.
Les prophéties s'accomplissent, l'Esprit est donné au peuple, et on devient un peuple de sacrificateurs, littéralement, un peuple d'adorateurs, littéralement, qui sont habités par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est clair. Maintenant, pourquoi est-ce que je souligne la présence de l'Esprit puis son rôle à jouer? C'est qu'on a un thème majeur de l'Ancien Testament. Dieu vient habiter au milieu de son peuple par son Esprit. Ça, c'est un thème important dans l'Ancien Testament. Dans l'alliance de l'Ancien Testament, la promesse qui avait été donnée, rappelez-vous l'échange assez vif que Moïse a eu avec Dieu lorsque Dieu a dit, regarde, c'est bon, là, mais je ne serai pas avec vous. Vas-y, là, puis je vais vous protéger, là, mais je ne serai pas avec vous. Puis Moïse a dit, non, ce n'était pas avec nous, on n'est pas intéressé à bouger d'ici. D'accord? Alors, c'est un thème majeur dans l'Ancien Testament, le fait que Dieu est présent. Maintenant, comment est-ce que Dieu va être présent avec son peuple dans le Nouveau Testament? C'est par son Esprit. Quel est l'élément déclencheur qui fait que son Esprit va être au milieu de nous? C'est la proclamation de Jésus-Christ. Et donc, je vous dis tout ça, pas pour vous parler de l'Esprit véritablement, pour vous parler de Jésus. Qu'est-ce qui faisait dans l'Ancien Testament que Dieu acceptait d'être au milieu de son peuple? C'est que le peuple honorait l'Alliance. Qu'est-ce qui fait dans le Nouveau Testament que Dieu vient vivre au milieu de son peuple par son Esprit? C'est qu'on accepte le sacrifice de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas là pour parler de l'Esprit, il est là pour parler de Christ, pour amener Christ au centre de l'adoration. Et le fait que l'Esprit vienne, c'est une attestation, c'est une preuve que tout est accompli en Jésus-Christ. D'accord? Tous les premiers signes qu'on va avoir, c'est là pour attester, c'est là pour démontrer, ça vient confirmer qu'on entre dans une nouvelle alliance, il y a une nouvelle personne qui va être au centre de notre adoration, c'est Jésus-Christ. Ça va? On va continuer la semaine prochaine. Merci.